Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors Raveli Lemel, comme chaque semaine, on va avec vous survoler la paracha de la semaine, le passage que nous lisons dans la communauté. Et donc on arrive à Matot Massé, en fait il y en a deux, et pour nous permettre de recoller aux Israéliens, pour qu'il y ait vraiment décidément qu'un seul peuple. Et on parle notamment de la question des vœux. Et il se trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah, c'est qu'un vœu, qui pourrait sembler comme quelque chose, a fortiori d'ailleurs, si c'est juste par la parole, comme voilà, j'ai fait un vœu, j'ai voulu, j'ai pas pu, c'est pas grave. Non, pour le judaïsme, un vœu, c'est un acte important. Et vous allez nous dire maintenant pourquoi.
Oui, tout à fait, Bernard. En effet, cette notion de vœu est quelque chose qui est très très particulier dans la Torah. La Torah, en vérité, dans cette paracha, va évoquer à la fois ce qu'on appelle l'univers des nedarim, qu'on traduit par vœu. Mais en vérité, c'est pas si simple. Hein. Et aussi les shvuot, c'est-à-dire les serments. Alors, évidemment, dans notre univers, on dit un vœu, voilà, quelqu'un dit « je fais le vœu de ceci, ceci, cela ». Et puis comme vous venez de le dire, d'ailleurs, certaines personnes vont dire « bon, j'ai pris le vœu, j'ai fait le vœu, et puis voilà, je le fais, je le fais, je le fais pas, je le fais pas ». Alors qu'en vérité, quand vous regardez dans la Torah, eh bien, les choses sont pas du tout la même chose, puisque quand on fait un vœu, c'est comme si au fond on avait créé un nouveau statut au niveau de la loi. On s'impose à soi, à d'autres personnes, un certain nombre de règles nouvelles. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent bien que quand quelqu'un transgresse un vœu, eh bien, il a une sanction réelle, comme s'il avait transgressé un interdit de la Torah. Alors, de quoi il s'agit ici? Eh bien, quelqu'un peut, par exemple, faire différents types de vœux. Le vœu d'amener, par exemple, au Beth Amikdash, au temple, une offrande. Ça peut être aussi le vœu de donner de l'argent à une synagogue ou à une noble cause. Et puis, on peut aussi faire des vœux dans lesquels on s'interdit quelque chose. On dit que telle et telle chose m'est interdite, comme consommer tel et tel produit. Au passage, évidemment, il ne s'agit pas de s'interdire quelque chose que la Torah interdit. Et cet objet sur lequel on a décidé qu'il ne pouvait pas faire partie de notre alimentation, par exemple, eh bien, un statut particulier, il nous est interdit, il a un statut d'éléments interdits. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si banal. Alors la Torah justement nous dit « lo yachel devaro », c'est-à-dire on ne peut pas littéralement profaner sa parole. Intéressant de voir que le terme que l'on utilise ici, c'est le terme de « chol ». « Chol », c'est ce qui est profane. En deux mots, enfin en d'autres mots, pardonnez-moi, eh bien ça revient à dire que la parole d'engagement a une dimension de « kdusha », une dimension de « sainteté ». Et en effet, la parole est créatrice, elle a inscrit une réalité nouvelle, c'est-à-dire qu'on a fait un vœu par rapport à une chose dont on ne veut pas consommer, eh bien, ça y est, cette chose-là prend un statut différent. Et ça, je crois que c'est un point quand même extrêmement important, à savoir que nos mots nous engagent de manière très très forte parce qu'ils construisent une nouvelle réalité. Vous savez que il y a aussi une discussion parmi les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge, pour savoir si quelqu'un dans son rêve a fait un vœu. Eh bien, on dit que ce rêve n'est pas juste un rêve, il y a peut-être en effet ici une forme d'engagement. Alors ça se discute, mais même y penser, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas banal. D'ailleurs, on va le voir, lorsqu'imaginez, vous êtes dans un endroit dans lequel on fait un appel de fonds, et oui, on en revient toujours à l'argent, vous le savez bien, et on pense, on dit, ah ben tiens, je vais donner telle et telle chose. Même si on ne l'a pas dit, c'est pas si simple. Alors évidemment, je ne vais pas dire ici que vous avez une obligation formelle, mais c'est quelque chose qui se discute et qui n'est pas si banal. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on a fait un vœu? On a fait un vœu et bien on se rend compte qu'au fond, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Alors, rappelons-nous d'abord de ce verset qui nous dit « Tov shelotidor, mishetidor, velotoshalem ». Il est bien de ne pas faire un vœu plutôt que de faire un vœu et de ne pas le payer, de ne pas accomplir sa parole. Les maîtres du Talmud, d'ailleurs vous savez que vous avez tout un traité du Talmud sur les vœux, un autre sur les serments, le traité de Nedarim, le traité de Shavuot, pas Shavuot la fête, hein, Shavuot, c'est-à-dire les serments, on nous dit des choses qui sont pas banales du tout par rapport à quelqu'un qui serait un petit peu léger avec sa parole et avec ses vœux. Alors, vous savez que une première manière de fonctionner, c'est de dire « bli neder », je prends cet engagement, mais sans une forme de vœu, d'accord ?« Bli neder », que ça ne soit pas considéré comme un vœu. Je rappelle que toutes les années, avant Rosh Hashanah ou avant Kippour, suivant les traditions, certains le font avant Rosh Hashanah, avant Kippour, il y a ce qu'on appelle « hatarat nedarim », le moment dans lequel on se délivre de nos vœux. Alors qu'on soit bien clair, il s'agit d'une... pas d'une prière, d'ailleurs c'est ce fameux kol nidré, on est là, mais kol nidré c'est tout simplement le moment dans lequel on dit tous les vœux qu'on a fait, eh bien qu'ils soient nuls et non avenus. Alors attention, il ne s'agit absolument pas des vœux que l'on connaît, cela on ne peut pas les annuler comme ça et on va voir s'il y a une procédure. Non, peut-être qu'un jour sans nous en rendre compte ou alors on a totalement oublié qu'on a pris un engagement, alors on demande qu'il soit annulé, mais si on s'en rappelle il faut l'assumer quand même. Et puis, on parle là-bas aussi des habitudes, des bonnes habitudes qu'on aurait prises et qui auraient peut-être une forme de vœu. On ne va pas rentrer dans les détails de la loi. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on a fait un vœu et qu'on le regrette, on réalise qu'au fond, eh bien, on n'aurait peut-être pas dû le faire parce qu'on ne va pas pouvoir l'assumer. Alors, déjà, si c'est un vœu d'engagement financier, c'est très complexe. Mais on va imaginer plus quelqu'un qui a pris sur lui allez, de ne pas manger telle et telle chose, de ne pas mettre tel ou tel habit. Eh bien, peut-il maintenant se délier de son vœu ? Alors oui, il y a cette possibilité, mais c'est pas juste comme ça. Il va falloir qu'il rencontre trois personnes dont au moins une d'entre elles connaît bien les lois sur les vœux. Et il ne s'agit pas de formules magiques. Il va les voir, il doit dire à l'un des trois quel est son vœu, d'accord ? On n'est pas obligé de le délivrer aux trois, les trois ne sont pas obligés de connaître le vœu, au moins un des trois. Et cette personne-là, après, va faire ce que l'on appelle un système, alors halachique, dans la loi, on dit « petar v'charata ». Les spécialistes auront compris de quoi je parle, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu plus de quoi il s'agit. Eh bien, on va ouvrir une porte vers le regret, ça serait ça un petit peu la traduction. On va joindre ici deux concepts que l'on trouve dans le traité de Nedarim, dans lesquels on va dire un petit peu la chose suivante à la personne. Si tu avais su qu'un jour tu regretterais ce vœu, pour une bonne raison, parce que vraiment tu te rends compte qu'il ne fallait pas le faire, que c'est trop complexe, est-ce que tu l'aurais fait ? Et si la personne, en toute conscience et de manière vraie, nous dit oui, en effet, si j'avais pris la mesure de ce que ça allait représenter et de la difficulté que j'aurais de le mettre en place, eh bien, je n'aurais pas fait ce vœu. Dans ce cas-là, on peut faire en effet, et faire, pardonnez-moi, en effet, ce que l'on appelle une hatarat nedarim, c'est-à-dire délier la personne de ses vœux. Mais on n'est pas très pour. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas que les gens s'amusent avec cela et ils pensent que les mots qu'ils prononcent, eh bien, sont du tout et du n'importe quoi. D'ailleurs, il est connu que les maîtres du peuple juif n'avaient pas l'habitude de prendre des engagements. Ils ne disaient pas « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Non, ils faisaient les choses, tout simplement. C'est-à-dire que ils savaient très bien que on peut prendre des engagements et puis parfois, pour certaines raisons, ne pas réussir à les tenir. Alors à quoi bon cette parole ? Quelque part, d'ailleurs, vous savez que souvent, malheureusement, les vœux que certaines personnes font, surtout lorsqu'il s'agit d'engagements financiers, eh bien, les personnes le font parce que tout simplement, ils en ressentent, j'ai presque envie de dire, le besoin. Et puis parfois, certaines personnes, eh bien, une fois qu'elles ont dit qu'elles allaient donner, eh bien, pour elles, c'est comme si elles avaient donné. Et puis elles oublient. Et c'est très ennuyeux. D'ailleurs, je sais que mon père, Zichrono Livracha, que son âme soit bénie, là où il se trouve, eh bien, avait l'habitude, lorsqu'il faisait une prière dans un cimetière dans lequel on dit « Et la communauté ici s'engage pour l'élévation de l'âme du défunt à donner de la tzedaka, de la charité », Eh bien, il disait la foi blinéder sans engagement formel, mais il avait toujours l'habitude, eh bien, tout de suite après la cérémonie, de prendre de son argent et de donner à la charité, de dire, ben, je le donne pour tout le monde. C'est-à-dire que je me fais représentant de toutes les personnes qui sont là, comme ça, eh bien, au moins, je suis sûr que personne ne se retrouvera pris par une forme d'engagement. Alors, là-bas, bien sûr, ça se discute, puisque c'est une personne qui dit les choses, mais les autres disent « Amen hein. ». Comme ils disent « Amen », quelque part, ils s'engagent. C'est la raison pour laquelle il est bien, dans une prière de ce type, de dire « Blineder ». Il s'engage à donner, mais sans forme de vœu. Donc, ils disent « Voilà, on va donner, mais on ne veut pas que c'est le statut du vœu ». Comme ça, au moins, eh bien, s'il y a une difficulté, eh bien, la personne ne se retrouvera pas à avoir transgressé. Alors, aujourd'hui, on était peut-être sur une dimension un petit peu plus technique et halakhique au niveau de la loi, mais c'est peut-être important de prendre la mesure de ce que représentent les choses et surtout, comme on l'a dit en introduction, de la valeur et de l'importance de la parole. Prendre un engagement, c'est quelque chose de fort. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, c'est quoi un mariage ? Eh bien, lorsque une épouse accepte de recevoir cette fameuse bague, ce sont les mots que prononce son futur époux qui vont créer un lien indéfectible entre eux. Donc les mots ont un impact, ont une puissance. À nous de nous rappeler de les utiliser avec intelligence, sagesse et parcimonie. Et lorsqu'il s'agit en effet d'engagement dans l'univers de la Torah et d'Amitsot, eh bien de faire en telle sorte que cet engagement-là soit un engagement qui ne passe pas nécessairement par une parole, mais qu'il soit capable de s'exprimer en premier lieu à travers un acte et une action. C'est peut-être comme cela que l'on arrive le mieux à créer et à construire dans le peuple d'Israël.
Ravi Lilemel, merci. Moi, j'ai plein de vœux à vous formuler. Ça, c'est un bon Shabbat à tous les auditeurs et puis aussi un bon été. C'est une période tout à fait particulière qui est aussi l'occasion de se retrouver et de retrouver ceux qu'on aime, ceux qui sont autour de nous. Donc voilà, moi, j'ai plein de vœux. J'espère que ils seront tous exaucés. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
On part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat shalom.
Shabbat shalom, ou Evorach.
Rav Mordechai Biton, on poursuit notre étude de la paracha de la semaine, ce chapitre qu'on lit dans nos communautés. Et vous voudriez, vous, intervenir ce soir sur un passage très connu qui est celui de deux tribus d'Israël qui refusent d'entrer en territoire d'Israël et parce que tout simplement ils ont trouvé des plaines grasses, parce que le... ça, disons, je ne sais pas si vous allez nous dire, mais ça, on pourrait dire c'est en Jordanie, c'est pas, ou dans le sud de la Syrie, et ils trouvent que c'est bien, ça leur plaît, et ils ne sont pas du tout pas solidaires avec les autres, mais ils trouvent qu'ils voudraient garder, ces... et ils demandent la permission en plus. Et Moïse le prend très très mal. Moshe leur demande pourquoi, et il les abjure d'aller se battre avec les autres, évidemment, les frères, avec leurs frères. Ouais. Et vous voulez vous réfléchir sur ça?
Bah, c'est-à-dire que la réaction de Moshe Rabbeinu, quand on lit le texte, elle est difficile à comprendre, parce que comment on peut imaginer que les tribus de Gad, c'était des guerriers, et on reconnaissait leurs victimes, hein, leurs cibles, parce qu'ils étaient très puissants sur le plan physique, Réhouven également, et donc il était tout à fait évident qu'ils n'ont à aucun moment, ils n'ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne va pas aller faire la guerre. Ils ont simplement, eux, combattu contre Sihon et Og, donc également contre Midian, et donc ils ont amassé un butin énorme, et avec ce butin, ils ont pu acheter des troupeaux, et en achetant des troupeaux, ils ont besoin de pâturages. Des pâturages, il y en avait à l'époque, dans l'actuelle Jordanie, et au sud de la Syrie, enfin dans ces coins-là. Donc ils ont demandé un territoire, mais ils ont, à aucun moment donné dans la discussion, ils ont dit, on ne veut pas rentrer pour se battre, pour que les Bnei Israël récupèrent Eretz Israël. Il n'y a jamais été question de ça. Et on voit que Moshe Rabbeinu leur dit, à cause de vous, Tarbut Aneshim Chataim, vous êtes des fauteurs, les gens risquent de ne pas vouloir entrer en Eretz Israël, on a déjà tourné pendant 40 ans, vous allez décourager tout le monde. Et comme vous l'avez dit justement, il les abjure, il leur dit, vous devez aller combattre et tout, etc. Alors en fait, Le fond de l'affaire, c'est l'argent. Le fond de l'affaire, c'est l'argent. Parce que même dans l'argumentation de Moshe Rabbeinu, on voit ici ce que j'appellerais l'œil de lynx des grands du peuple juif. Les grands du peuple juif, ils ont toujours cette capacité de voir beaucoup plus loin que le commun des mortels. Et Moshe Rabbeinu, il a très très bien compris à la fois leur démarche, mais en même temps les dangers de leur démarche. Eux, ils sont venus, et d'ailleurs, c'est quand la Torah le raconte, elle commence par dire au chapitre 32, eh bien, les tribus de Réhouven et Gad avaient beaucoup de troupeaux. Donc, dès le départ, le décor est planté. Il s'agit de richesse. Il s'agit de gérer leur richesse. Qu'est-ce qui a mis Moshe Rabbeinu en éveil? C'est qu'au chapitre, au verset 5 du chapitre 32, ils vont s'adresser à Moshe Rabbeinu en disant, écoutez, est-ce qu'on a trouvé grâce à tes yeux? On voudrait cette partie-là, là-bas. Et puis là, se suit une espèce de développement, d'accord? Et en fait, ils vont lui dire, écoute, on a beaucoup de troupeaux. Et nous, en fait, on s'occupe de nos troupeaux. Et alors, quand Moshe Rabbeinu va les admonester, à la fin, il va dire, bon, ok, j'ai compris, vous êtes d'accord d'aller faire la guerre, mais je voudrais quand même rectifier une chose. Et là, ça, c'est au chapitre 32, au verset 23 et 24. Il leur dit, bon, très bien, si vous faites ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous allez faire la guerre et tout, vous allez soutenir Israël, tout ira bien. Et là, il ajoute une phrase qui est très, très, très lucide. Il dit, Benou lachem arim letapechem, quand vous avez présenté le projet, vous avez dit, on va construire des enclos pour notre troupeau, puis ensuite des villes pour nos enfants, et ensuite, une fois qu'on aura mis tout ce petit monde en sûreté, on rejoindra les troupes d'Israël pour faire la guerre, pour conquérir Israël. Et là, Moshe Rabbeinu s'adresse à eux, il leur dit, Benou lachem arim letapechem, commencez par construire des villes pour vos enfants. Et des enclos pour votre troupeau. Et puis, après, vous irez faire ce que vous voulez. Et là, Moshe Rabbeinu, il leur répond, en fait, sur le fond de l'affaire. Il leur dit, en fait, votre problème à vous, c'est quoi? C'est que vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël parce que vous avez sous les yeux ici des territoires qui sont très vastes et qui sont très fertiles, parce que vous voulez protéger votre argent. Mais votre argent, c'est une obsession chez vous, à tel point que vous le mettez bien avant vos femmes et vos enfants. Moi, je vous dis que vous devez d'abord commencer par construire des villes pour vos enfants, des villes pour vos femmes et vos enfants, et des enclos pour votre troupeau. Commencez par vous occuper de vos familles, de votre shlombeit, comme on dirait aujourd'hui. Commencez par vous occuper du chinour, de l'éducation de vos enfants. Commencez d'abord par vous occuper de l'équilibre personnel, familial, l'équilibre émotionnel, avant de vous occuper de l'équilibre économique. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Votre serviteur, étant thérapeute de couple, la thèse que j'ai faite pour obtenir ce diplôme, c'était sur l'influence de la Alia sur les couples qui viennent ici en Israël et qui sont en difficulté. Et dans 100% des cas, quand les gens étaient obsédés par l'économique, ne faisaient pas du tout attention aux écoles de leurs enfants, aux placements, où habiter, les quartiers dans lesquels on habite, ça a souvent donné des grandes catastrophes. Et Moshe Rabbeinu, ici, nous donne une des clés pour accéder en Eretz Israël. Bien sûr qu'en Eretz Israël, on va s'occuper de notre argent, de notre parnassa, bien évidemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les explorateurs ne voulaient pas y entrer en Eretz Israël. C'est parce qu'il faudrait enfin s'occuper de la parnassa et du monde matériel dans lequel on vit. Mais il y a des ordres de priorité. Stabiliser sa famille, se stabiliser sur le plan émotionnel, stabiliser l'éducation de ses enfants, s'assurer que ses enfants ont des bonnes fréquentations, sont des bonnes écoles, s'assurer que tout ce petit monde est bien installé. Eh ben, c'est la priorité numéro un. Et ensuite, après, vous pourrez vous occuper de votre parnassa. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos amis et nos pères de la tribu de Gad et Réhouven? Ben, bien mal leur en a pris. Parce qu'il y a une marloquette, finalement, entre le Midrash Echa, et finalement le Midrash Rabba. Et d'après le Midrash Rabba, lorsque Sanhérib a envahi donc le Moyen-Orient et que donc il a exilé des tribus, bah, les deux premières tribus qui ont été exilées, c'était ces tribus. Et c'était des tribus dans lesquelles plus rapidement on s'est assimilé à l'idolâtrie ambiante. Et donc, très rapidement, on a lâché. Alors, le symptôme ne s'est pas fait attendre. Dès que les Bnei Israël ont conquis Israël et que Gad et Réhouven sont partis s'installer chez eux, ils ont construit une réplique du temple. Et là, Pinchas et les dirigeants du peuple juif ont été en colère. Ils sont partis chez les Bnei Gad et Réhouven. Ils ont dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous construisez une réplique du tabernacle chez vous? Vous ne voulez plus venir pèleriner? Ils ont dit, non, pas du tout. C'est parce qu'on est tellement loin qu'on risque d'oublier. Parce qu'eux-mêmes, en fait, ils ont organisé leur sabotage et leur échec, mais sur le long terme, sur des centaines d'années. Et ça, Moshe Rabbeinu, il l'a vu dès le départ. Et c'est ce qui explique la réaction de Moshe Rabbeinu. Et là, on a un enseignement qui est très intéressant. Les grands du peuple juif sont des gens qui voient clair, notamment, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans l'actualité, sur Eretz Israël. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Eretz Israël avaient été racontées par le Chazon Ish en son temps et par d'autres gdolim du peuple juif bien avant que ça arrive. Ils sont toujours très, 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 très lucides. Concernant le rapport à l'argent, il faut savoir que les termes qui parlent de l'argent sont quand même des termes qui sont assez intéressants. Par exemple, on parle des nechassim, c'est les richesses. Mais le mot nechassim, d'accord, ça vient de mechoussé. C'est quelque chose qui finit par être caché de l'individu. Les individus sont toujours très obsédés par leurs biens, mais c'est des choses qui finalement leur sont soustraites. Zouzim, on parle de l'argent. Zouzim, c'est quelque chose qui bouge. L'argent va et vient. Comme aurait dit un humoriste, quand ça vient, ça va, mais l'argent va et vient, l'argent bouge beaucoup. Et ce qu'on a gagné, on peut le perdre finalement assez rapidement. Mammon. Mammon, c'est la contraction du mot « Bah, ta monnaie, qu'est-ce que tu comptes ?» En vérité, c'est rien. Ma'ot, l'argent, d'accord ? L'argent, c'est pour dire « Maléaï, quel futur de cette chose-là » Eh bien, tout ça s'applique aux tribus de Gad, aux tribus des Reuven, et ça, Moshe Rabbeinu l'a vu dès le départ. Vous avez raison de vous occuper de votre parnassa, bien entendu. Mais vous avez inversé l'ordre des priorités et vous allez le payer cher. Une femme de, on va conclure avec ça, une femme de la noblesse romaine, une fois qui s'est adressée à Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ben Chalafta, elle a dit « En combien de jours Dieu a créé l'univers ?» Elle a dit « En 6 jours. » Elle a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait depuis ?» Alors il a dit « Il construit des échelles pour élever certains et en abaisser d'autres. » Ce qui était une manière de lui dire que le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel, effectivement, si on est obsédé par l'argent, on est toujours aux prises avec cette frayeur de l'ascension sociale et de la chute sociale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'occuper de parler à ça, ça veut dire qu'on doit avoir le sens des priorités. Ça, c'est la clé du dialogue entre Moshe Rabbeinu et les tribus de Gad et les tribus de Reuven. L'ordre des priorités, et ça rejoue, comme Moshe Rabbeinu va leur faire comprendre, ça va jouer même sur les relations avec leurs épouses, mais ça va même jouer dans l'éducation de leurs enfants. Et au fond, très rapidement, en moins d'une centaine d'années, les enfants vont partir en déliquescence. Je rappelle qu'également, c'était un endroit dans lequel il y avait beaucoup de meurtres. Il y avait beaucoup de meurtres là-bas, sur les territoires de Gad et les territoires de Réhouven. Et donc, on a vu que très rapidement, les mœurs s'en sont ressenties. Voilà, je crois que l'enseignement de ce dialogue, c'est que les grands du peuple juif sont des gens que nous devons consulter pour apprendre précisément parfois à tout simplement rétablir les priorités. Les priorités, et notamment quand on fait ça à l'IA, notamment quand on décide de venir habiter en Eretz Israël, mais pas que. Voilà, Shabbat Shalom à toutes et à tous, Bezrat Hashem.
Rav Mordechai Biton, on fera peut-être une émission spéciale sur la Alia. Parce que moi, par exemple, les choses, alors je ne vous demande pas de répondre comme ça tout de suite, al regel achat, mais sur un seul pied, mais c'est quelque chose quand même de très étonnant, c'est qu'on ne considère pas comme une mitzvah qui n'est pas faite, je ne sais pas quel mot utiliser, si nous on fait la même chose que tout ce que vous venez de décrire. Parce que finalement, moi, je vis à Paris pour des raisons matérielles qui sont bienveillantes, évidemment, je fais de mal à personne, mais c'est les mêmes raisons si je reste à Paris. Et dans la paracha Shlach Lecha, on a vu des explorateurs se faire étrier parce qu'ils étaient bien dans le désert à étudier la Torah. Aujourd'hui, on est beaucoup. Moi, j'aimerais bien étudier la Torah, d'ailleurs, autant que vous, mais on est beaucoup à faire ça. Et personne ne nous dit que c'est une faute gravissime, comme si on pratiquait, je ne sais pas, l'idolâtrie.
Et sans rentrer dans le questionnement et la polémique, je voulais rappeler juste ce que j'ai dit pour la paracha de Shlach. La génération du désert, ils avaient un rendez-vous. Ils ont reçu la Torah, ils avaient le rendez-vous avec Eretz Israël. Notre génération, elle a Eretz Israël. Dans quelques années, la majorité du peuple juif sera là-bas. Et je vous souhaite très rapidement de nous rejoindre. Et je suis convaincu que ce mouvement de retour vers Eretz Israël, c'est un mouvement qui continuera. En tout cas, on prédit d'ici une vingtaine d'années que la majorité des juifs répertoriés dans le monde habiteront en Eretz Israël. Donc on a Eretz Israël. Mais le fond de l'histoire aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va réussir le rendez-vous avec la Torah ? Et ça, c'est une question qui est posée à toute la génération, même à ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël. C'est ça le fond de l'histoire. C'est que le peuple juif bénéficie d'Eretz Israël, qu'il y vive ou qu'il y vive pas. Parce qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se le refuser de le dire. On est tous très contents d'avoir un gouvernement indépendant, d'avoir un pays indépendant, d'être indépendant, même si on peut émettre des doutes sur sa indépendance, on est tous très contents d'avoir un pays. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on veut en faire ? Vers où on veut l'emmener ? Vers où on veut emmener le peuple juif ? Donc, moi, j'ajouterais votre problématique, sans entrer dans la polémique, également aussi cet aspect-là des choses. C'est ça le fond de l'affaire. Pour que le Mashiach vienne aujourd'hui, c'est ce pourquoi on prie 3 fois par jour, c'est ce rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, qu'on habite ou pas en Eretz Israël. Bon, il y a encore beaucoup à dire sur la question.
Bah, on le fera alors. Que vous un avez jour posé. On le fera, je vous donne rendez-vous.
On va le faire.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gueh, vous voulez revenir sur cette période qu'on appelle Ben HaMetzarim, qui est cette période de deuil qui sépare le 17 Tammuz du 9 Av, donc, que nous vivons actuellement, et qui parle de la destruction des deux temples de Jérusalem. Alors, vous voudriez citer une Gemara très très surprenante, on peut presque dire bizarre, qui est dans Bechorot, où on voit Rabbi Yeshua, qui est un de nos plus grands maîtres, qui parle avec des érudits grecs, et a priori, la conversation semble très étonnante. Mais le Maharsha l'explique, et dites-vous, il l'éclaire d'une manière exceptionnelle, magistrale. On vous écoute.
Voilà, alors d'abord il faut savoir que cette Gemara est une Gemara fameuse appelée la Sugya de Saba de Beatuna, c'est-à-dire les sages d'Athènes que la Gemara met en scène et qui discute avec un rav, Rabbi Yehoshua ben Hanania, un des grands Tanaïm, donc l'époque de la Mishnah, et Rabbi Yehoshua ben Hanania fait particulièrement, répond d'une façon toujours extraordinaire aux questions de ces sages d'Athènes. Alors en fait, la Gemara est une des Gemarotes les plus difficiles dans tout le chasse parce que volontairement, très volontairement, ils ne disent pas clairement ce qu'ils veulent dire. C'est sous la forme de métaphores et d'images qui sont des fois difficiles à décrypter. Alors je vous dis, c'est en fait deux lignes que je vais simplement vous expliquer, vous rapporter. Donc c'est les sages d'Athènes qui interviennent et qui apportent deux œufs, des œufs, hein, des œufs. Et il lui demande à Rabbi Yehoshua ben Hanania de savoir de chaque œuf, il y a donc deux œufs, un œuf de savoir vient d'une poule blanche et l'autre vient d'une poule noire. Ils ont la même couleur les œufs. Les œufs sont blancs ou ils sont marrons comme on le voit d'habitude, mais donc aucune différence entre les œufs. Et par contre, il demande à Rabbi Yehoshua ben Hanania de savoir qui était la poule qui leur a donné, qui les a produites. Il y a une poule noire et une poule blanche. Il faut savoir quel œuf vient d'une poule noire et quel œuf vient d'une poule blanche. Et Rabbi Yehoshua, pour leur répondre, il apporte lui deux fromages et il dit quel fromage provient d'une chèvre blanche et quel est le fromage qui vient d'une chèvre noire. Voilà, ça c'est l'échange, alors vraiment étonnant, entre des grands sages d'Athènes qui parlent de couleurs de poules, et Rabbi Yehoshua ben Hanania qui rétorque en parlant de fromage avec des chèvres blanches ou noires. On peut se dire, mais vraiment, ça ne veut rien dire. Alors effectivement, la Gemara, dans la partie agadique, parle souvent sous une forme métaphorique, sous une forme des allusions des fois difficiles à décrypter. Alors, je voudrais citer ici le Maharsha, Rabbi Shmuel Eliezer Edels, un des grands maîtres du XVIIe siècle, partie du XVIe et pas début du XVIIe, qui donne une explication incroyable là-dessus. Alors, cette discussion s'inscrit en fait dans la suite de quelque chose qui a été déjà abordé dans la Gemara de Chorot, sur le fait que les poules, elles ont leurs œufs. Bon, elles ont des œufs très souvent, vous le savez, mais en fait, la période de gestation, entre guillemets, de l'œuf, c'est 3 semaines, 21 jours. Et le chiffre 21 évoque évidemment la période dans laquelle nous sommes, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. D'accord ? Donc cette période-là de 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour une poule qui a été donc qui commence sa gestation. Ça prend 21 jours pour créer l'œuf. Alors, il faut savoir que dans le corps d'une poule, il y a beaucoup d'œufs, même tout petits, mais qui vont faire une gestation tous de 21 jours, les uns après les autres. Et donc, c'est ça l'allusion. Alors, pourquoi on parle de couleur blanche et de couleur noire? Évidemment, c'est parce qu'il y a deux périodes. La période qui va de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah, c'est aussi 21 jours. C'est ce qu'on appellera la période blanche. Pourquoi blanche? Parce que c'est la période de fête. Alors que la période dans laquelle nous sommes, sera plutôt associé à la couleur noire, puisqu'on parle plutôt de deuil et de destruction. Et lorsque Rabbi Yehoshua répond en disant qu'il parle, lui, de chèvre, de Ez, en fait, c'est une allusion au Sa'ir Izim, c'est-à-dire aux boucs qui sont apportés à Yom Kippour. Vous savez qu'on a apporté deux boucs, hein, qui étaient apportés à Azazel, jetés d'une falaise dans le désert, et l'autre bouc qui était destiné, dont on prenait le sang pour l'asperger dans le Saint des Saints, Kadesh HaKodashim, et donc un sacrifice. On appelle l'Hachem Khatat, un service expiatoire pour Hachem, apporté dans le Saint des Saints. Les deux devaient être identiques, c'est-à-dire de la même couleur, de la même hauteur, même acheté au même prix, c'est-à-dire rigoureusement identiques. Donc en fait, ce que dit Rabbi Yehoshua au sage d'Athènes, il dit, vous voulez différencier les deux périodes en donnant à l'une la couleur blanche et l'autre la couleur noire. Eh bien, je vous réponds en disant non. Dans le judaïsme, il n'y a pas la couleur noire et la couleur blanche. La preuve, c'est que les deux boucs, l'un qui est destiné à être jeté dans le désert pour l'Azazel, ainsi que celui qui est apporté dans le Saint des Saints, le Kodesh Kodashim, ont la même couleur, le même aspect, la même dimension. On ne veut pas qu'il y ait une différence entre l'un et l'autre. Et en fait, la preuve, c'est que le fromage, peu importe s'il vient d'une chèvre blanche ou d'une chèvre noire, le fromage sera toujours blanc. Il ne va pas changer de couleur. Donc c'est quoi cette remarque? C'est en fait de dire que pour nous, dans le judaïsme, il n'y a pas de couleur blanche et de couleur noire. Il n'y a pas d'élément, on va dire, totalement destructeur et de désespoir. Parce que le noir, évidemment, c'est l'obscurité, c'est le désespoir. C'est... Au contraire, le Rav nous dit, c'est la même couleur. C'est-à-dire que ça donne la même couleur blanche au niveau du fromage. Parce qu'en fait, Hachem, il a deux façons de nous parler. Il nous convoque de deux façons. Soit il nous convoque dans la période de Rosh Hashanah, de Kippour, en nous disant, messieurs, le moment est venu de faire le bilan de l'année. Je vais vous signer dans le livre des vivants. Nous espérons tous d'être signés dans les vivants. Donc c'est un moment de convocation, de jugement, mais c'est une période de fête, c'est une période de proximité avec Hachem, donc c'est un moment blanc. Mais même le moment qui paraît noir, le moment de destruction, ce n'est pas un éloignement de Dieu. Ce n'est pas une absence de Dieu. C'est au contraire un Dieu présent qui, à travers des signaux, des fois, on va dire, à travers des signaux qui sont un peu peur, qui sont un peu redoutables, sont là pour nous rappeler à l'ordre. Comme lorsqu'un papa corrige son fils. Il le fait par amour. Il le fait pas par... Évidemment, il ne faut pas qu'il le fasse dans sa cossée de colère, mais qu'il le fasse pour véritablement corriger son fils. C'est-à-dire que lorsqu'il sévit, il le fait par amour. Pour lui, pour le père, c'est plus facile de gâter son fils, c'est plus facile de lui apporter des friandises, etc. Mais de temps en temps, il faut un petit peu montrer une certaine sévérité. Et cette sévérité n'est pas un signe d'éloignement du père, mais au contraire, de proximité, d'intérêt, d'amour. Maintenant, un amour un peu caché, c'est-à-dire un amour caché par une certaine sévérité. Et donc, en fait, il conteste le regard des sages d'Athènes qui veulent donner deux couleurs, une couleur blanche et une couleur noire, en disant non, finalement, les deux chèvres, les deux chevreaux, les deux vraiment boucs de Rosh de Yom Kippour sont exactement les mêmes. Parce que Dieu nous parle de deux façons, mais il nous parle toujours, c'est lui qui nous parle. C'est les deux facettes d'une même pièce, c'est deux fois 21 jours, et il faut surtout pas les considérer comme des jours noirs. De façon générale, je voudrais donner une histoire qui va un peu illustrer ce que je suis en train de dire. Il y avait deux voisins dans un kibbutz en Israël, un kibbutz pratiquant en Israël, de gens pratiquants, dans cet endroit, il y avait deux voisins qui avaient deux façons d'éduquer leurs enfants. Un était Baba Cool, jamais un bruit, jamais une phrase plus haute que l'autre, toujours en train de gâter ses enfants, donc ambiance très détendue dans la famille. Et en face, un papa très très sévère, très exigeant, très très dur, des fois un peu dans ses sanctions, Donc pas du tout la même ambiance dans la deuxième famille. Des années passent et les enfants se marient. Il arrive un jour où c'est Soukhot et il faut construire la soukha. Alors celui qui a des enfants avec qui il était très sévère, ils sont là, ils aident son, leur père à construire sa soukha. Mais en face, le papa qui était toujours très sympathique et un peu le baba cool, il a personne pour le construire sa soukha. Il s'en plaint à son voisin, il dit « je suis fatigué, je suis âgé, et mes enfants ils me disent tous qu'ils n'ont pas le temps ». Alors le voisin qui a été sévère appelle un des fils du baba cool et il lui dit « tu sais, j'ai quelque chose à proposer, j'ai une soukha à construire, je te donne 100 dollars si tu viens la construire ». Donc il arrive et il lui dit « alors, c'est qui chez qui je dois construire cette soukha pour laquelle je serai payé 100 dollars ?» Il lui répond « c'est ton père ». Alors il a très honte, évidemment il reconstruit la soukha pour son père mais sans demander de l'argent. Mais et d'ailleurs le voisin il sait pas que c'est son voisin qui a appelé son fils, donc il est assez content de voir son fils arriver et lui construire sa soukha. Mais après ils devisent, ils réfléchissent ensemble, ils sont assis tous les deux et là il dit je comprends pas, j'ai toujours été super cool avec mes enfants et aujourd'hui je les vois très peu, ils sont très rarement à la maison, ils sont toujours occupés, ils ont jamais le temps. Alors que toi, qui étais très sévère, tes enfants, ils sont toujours là pour t'aider, ils sont présents à chaque fois que vous avez besoin d'eux. Et ils réfléchissent tous les deux, et finalement, la conclusion est la suivante. Vous savez, lorsqu'on est sévère avec ses enfants, c'est pas toujours un signe qu'on est... C'est pas de la méchanceté, évidemment. Un père, il est sévère avec ses enfants parce qu'au contraire, il veut leur bien, il veut qu'ils réussissent dans la vie. Et c'est plus facile d'être baba cool, de ne pas agir, et de toujours les gâter. Évidemment, il n'y a pas de cri à la maison. Mais bon, les enfants sentent bien que c'est parce que le père ne veut pas se prendre la tête. Il n'a pas envie de se fatiguer, il n'a pas envie d'être méchant. Donc finalement, ce n'est pas de l'amour. C'est finalement de l'indifférence. Ou bien c'est une recherche de confort personnel sur le compte de l'éducation des enfants. Alors qu'en face, c'est un papa qui adore ses enfants et qui prend le mauvais rôle, celui du papa qui est sévère. Et finalement, les enfants, lorsqu'ils grandissent, ils comprennent que leur père, qui était sévère, c'était de l'amour. C'était parce qu'il voulait vraiment leur réussite. Et après, ils le rendent bien à leur père. Et ils comprennent que c'était un papa beaucoup plus attentionné que celui d'en face, qui ne voulait pas se prendre la tête et qui, pour son confort personnel, ne le réprimandait jamais. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, Rabbi Yehoshua ben Hanania nous donne une leçon. Et il nous dit... En fait, le but, c'est de nous construire à nous, ces enfants. Hachem veut construire le peuple juif. Il aimerait tellement que le peuple juif se construise simplement par le rendez-vous de Tishri. Mais on ne peut pas oublier que malheureusement, des fois, nous sommes un peuple qui oublions nos origines et nos devoirs. Alors des fois, Hachem nous corrige, on espère d'une façon la plus légère possible, mais nous envoie des messages pour nous dire « ne m'oubliez pas ». Et si je vous envoie des messages un peu durs, c'est pour vous faire réfléchir sur le sens de la vie et la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Et en fait, c'est en tant que papa qui veut le meilleur pour vous que je vous envoie ces messages. Ne les prenez pas comme un message d'éloignement, comme si j'étais en colère et que c'était un deuil pour rien. Non, c'est prendre conscience combien Hachem nous aime et combien il veut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour le servir et pour réussir notre vie spirituelle. Voilà le message des boucs noirs et blancs et des poules blanches et noires, mais finalement qui donnent des œufs de la même couleur et du fromage de la même couleur. Parce qu'en fait, le but est le même. Simplement, la méthode est différente selon, effectivement, ce que le peuple juif est capable d'entendre. Voilà un petit peu le message des trois semaines de 17 amours au 9 av. De l'amour, mais caché par peut-être une forme de dureté, mais qui n'est pas de la dureté. C'est de l'amour pour nous faire avancer, nous faire réfléchir dans la vie.
C'est de la rigueur, on peut peut-être appeler ça les... En été, c'est pas le mot, généralement on dit les rigueurs de l'hiver. Mais vous savez, Rabbi Yehoshua, il était coutumier, je parle sous votre contrôle bien sûr, mais il était coutumier des anecdotes comme ça. Et un jour, il était connu pour être très, très évidemment brillantissime, mais aussi très pauvre et physiquement pas très beau. Et il y a la fille d'un grand dignitaire qui est romain, qui lui dit, mais comment on peut avoir une telle intelligence dans un corps comme ça? Alors il lui dit, donc un truc aussi brillant dans un corps qui lui l'est pas du tout. Alors j'ai lu ça dans Adin Stenza, j'ai pas lu dans la Gemara. Alors il lui répond, raconte Adin Stenza, ce qu'il a lu, il a dû le lire dans la Gemara, et vous aussi, je sais. Et il lui répond, il lui dit, amène-moi un verre en or et un verre en argile, s'il te plaît. Et un bol en argile. Elle lui amène un verre en or et un bol en argile. Et il lui dit, maintenant, donne-moi du vin, on va mettre dans le verre en or et on va mettre dans le verre en argile. On met le vin dans le verre en or, dans le verre en argile. Il dit, je reviens dans 15 jours. Dans 15 jours, il demande les deux verres. Le verre où il y avait du vin dans un verre en or est totalement aigri. Il lui dit, c'est imbuvable, non? C'est du vinaigre? Elle lui dit, ah, c'est imbuvable. Il dit, ok, donne-moi le verre en argile, tu vas voir, c'est délicieux.
Exactement. Il faut savoir qu'Rabbi Yehoshua ben Hanania, vous parlez de son côté brillant,
oui.
C'est le seul parmi les sages d'Israël qui était capable de parler aux sages d'Athènes, à tel point que lorsqu'il est niftar, quelques instants avant sa mort, les sages d'Israël qui étaient autour de son lit de mort disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Qui va défendre la Torah devant les sages d'Athènes ?» qui étaient encore une fois brillantissimes à cette époque. Et il leur a dit, lorsque je disparaîtrai, eh bien, eux aussi, ils perdront leur sagesse. Il n'y aura plus besoin. Il n'y aura plus besoin. C'était un moment très spécial dans l'histoire, cette face-à-face.
Je leur donne du cohard. Je leur donne du cohard. C'est ça qu'ils disaient?
Non, ça veut dire, en fait, il y a une période dans, dans l'histoire qui était donc rapportée par Segmaroth, où les sages des non-juifs étaient d'un niveau très, très, très élevé. Et Rabbi Yehoshua était celui qui a été envoyé par le ciel pour répondre. Et leur échange est écrit dans la Gemara Bechorot, page 8. Et nous avons eu des commentaires là-dessus du Rav Moshe Shapira, qui a écrit tout un livre pour expliquer ces discussions. C'est passionnant et c'est extrêmement profond. Et c'est pour, évidemment, un héritage pour toutes les générations à venir, pour comprendre comment nous devons répondre aux sages des nations, comment répondre aux grands philosophes. Et donc finalement, une fois que Rabbi Yehoshua avait disparu, eux aussi ont disparu, parce qu'en fait c'était c'était une période qui était consignée par écrit et dont nous inspirons encore aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps.
Extraordinaire, extraordinaire. Même le Maharal, il lisait les Grecs. Rav Guay, je vous remercie et quel plaisir. Je vous souhaite un beau Shabbat. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
שם לא יבנה בית, שום ליבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי. אם השם לא יבנה בית, שום ליבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי.